5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Philippe.
Continuons ce débat autour de l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. La relation pollueur-payeur.
Oui, alors c'est un économiste des années 20, hein, Arthur-Cécile Pigou, qui a mis en place ce principe économique, c'est-à-dire le fait que l'activité économique engendre des externalités négatives, c'est-à-dire lorsque l'activité d'un agent économique a des répercussions négatives sur l'activité d'autres acteurs, sans qu'il y ait de prix d'échange monétaire pour ça, et que donc ces externalités négatives se reportent sur la collectivité et ont un coût pour la collectivité. Et donc, que pour réduire ce principe qui donc pousse tout le monde à polluer toujours plus, puisqu'on n'en paye pas les conséquences, puisqu'il n'y a pas de prix pour ça, eh bien, on crée un principe politique, donc une intervention de l'État ou des pouvoirs publics, qui vont mettre en place le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire faire payer à la source le pollueur pour la pollution qu'il va engendrer et qui va être supportée, dont les conséquences, en termes de coûts, vont être supportées par la collectivité. Ça se traduit dans des textes qui sont aussi bien dans les textes européens que des textes mondiaux, par le fait qu'on va mettre en place, je dis, une écotaxe, où on va mettre en place, par exemple, ce qu'on paye tous, c'est quand on achète un objet, on va payer une écotaxe pour le recyclage de cet objet ensuite.
Un deuxième fondement, c'est la logique de la coopération. Face à la montée de la logique de concurrence, à la complexification des systèmes économiques, on va développer une logique de la coopération du côté de la production, cette fois.
Oui, alors la logique de coopération, c'est de s'apercevoir d'abord du côté des entreprises que finalement se faire toujours concurrence, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace et que parfois on a intérêt à coopérer sur certaines choses, en particulier sur la recherche par exemple. C'est né au Japon comme idée et puis ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui comme les pôles de compétitivité où on va regrouper sur un même territoire des centres de recherche, des entreprises plus ou moins grosses avec des sous-traitants et on va essayer que cette proximité géographique permet de développer des coopérations qui vont rendre l'ensemble des entreprises du territoire plus performantes vis-à-vis d'un autre territoire.
Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il faut en parler quand même un petit peu aussi, ce sont les pôles territoriaux de coopération économique qui commencent de se mettre en place sur cette même logique de recherche de coopération. Ça a donné aussi un terme, la coopétition, qui est un terme quand même intéressant à avoir en tête. Qu'est-ce que c'est que la coopétition ?
Alors c'est une stratégie en fait de gestion de la compétition sur les marchés. Il s'agit de collaborer avec certains de ses concurrents sur certains points pour essayer de capturer à plusieurs un bénéfice commun et ensuite de se le partager. Alors pour des raisons de coût, de niveau de la concurrence, de compétences, on se regroupe parce que ça devient l'alternative la plus raisonnable. Mais on reste quand même en concurrence. Alors ça va être sur des projets communs, par exemple un châssis commun pour des voitures, voilà, parce que finalement c'est pas là-dessus que les consommateurs vont faire la différence, c'est pas là-dessus que ça sert à quoi que ce soit de se faire la guerre, pour pouvoir concentrer ses forces sur une réelle concurrence, sur ce que les consommateurs vont voir.
Il y a aussi cette même logique de coopération du côté de la consommation.
Oui, alors plus récemment, la consommation collaborative se développe, donc cette idée, on redécouvre en fait, parce que quand même c'est quelque chose qui existait avant, on redécouvre l'idée que l'on peut partager, qu'on peut échanger, qu'on peut troquer plutôt que d'aller toujours acheter un produit neuf. En particulier, il y a le développement de l'usage plutôt que de la propriété. Alors bien sûr, on peut louer, mais l'usage partagé, on le voit sur... Alors ça peut déboucher sur des modèles économiques comme l'autopartage, comme le vélo partage, hein, Vélib, etc. Mais ça débouche aussi sur des logiques d'achat à plusieurs. Aux États-Unis, il est fréquent que dans un immeuble, eh bien, on ait une machine à laver collective plutôt que d'en avoir une dans chaque appartement.
On peut aussi citer la location entre particuliers qui court-circuite des intermédiaires, le prêt entre particuliers aussi, enfin toutes ces initiatives qui fleurissent depuis quelques mois, en fait, c'est relativement récent, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose.
Le troisième fondement, c'est l'empreinte écologique, et donc le fait qu'on a essayé de mesurer, de se donner un indicateur qui permette de mesurer l'impact que l'activité économique avait sur la nature. Pas seulement en termes je prélève des ressources, pas seulement en termes de je pollue pendant que je fabrique, mais aussi en termes de quelle surface va être nécessaire à la nature pour éliminer les déchets que je génère. Donc avoir une approche du cycle de vie complet du produit et de voir tous les impacts que ça a sur l'environnement. Alors c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique et qu'on rapporte bien sûr au nombre d'hectares qui sont disponibles pour chaque habitant de la surface. On peut aussi faire la présentation de l'empreinte écologique en termes de combien faudrait-il de planètes pour satisfaire les besoins et éliminer les déchets si tout le monde vivait comme un Américain, un Français, un Chinois.
Ce sont les exemples souvent. Voilà, si on devait tous vivre comme des Américains, il faudrait 7 planètes. Si on devait tous vivre comme nous ici en France, il faudrait 4 planètes. Si on devait vivre comme un habitant du Bangladesh, il faudrait une demi-planète.
On est arrivé ensuite à un autre fondement qui découle de ça, qui est un principe qui est apparu en 2002, qui s'appelle cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau en français. C'est-à-dire l'idée que, puisqu'on a cette empreinte, que les ressources sont limitées, qu'il faut réduire cette empreinte, essayons de concevoir des produits qui soient dans une éthique environnementale. C'est-à-dire des produits qui soient conçus dès la base pour générer zéro pollution et 100% de recyclage à la fin.
Ce qu'on appelle l'éco-conception.
Voilà, l'éco-conception. Donc c'est l'objectif à atteindre, c'est l'idéal, zéro pollution et 100% de recyclage. Et donc c'est une autre manière de concevoir les produits, non pas seulement dans une préoccupation de qu'est-ce qui va mieux se vendre, mais dans une préoccupation de qu'est-ce qui va aussi être le plus facilement réutilisable pour une autre production future. Les matières premières vont être réutilisées sans fin. La seule chose qu'on réinjecte, c'est de l'énergie et du travail.
On ne peut pas finir sans parler de la Fondation Ellen MacArthur.
Oui, alors en fait, c'est la mine d'informations, la Fondation Ellen MacArthur, sur l'économie circulaire, où on trouve le plus de choses, et qui reprend le principe que le déchet n'est pas un déchet, mais est une ressource, une nourriture, entre guillemets, pour un cycle de production suivant. Le fait que la diversité est une force et que plus les systèmes sont complexes, plus ils ont besoin de diversité pour résister. Le fait que ce système a besoin d'énergie, mais que cette énergie, il ne faut pas qu'elle soit épuisable elle-même. Et le fait que pour arriver à ça, il faut que les prix reflètent la réalité des coûts qu'ils engendrent pour la collectivité en termes derrière de pollution, d'atteinte à la santé, etc.
Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.